Au moment de prendre la parole, j'aimerais vous souhaiter à tous, en particulier à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire, une bonne année. Pour commencer cette année, j'aimerais lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, un roi, au chapitre 19. À partir du verset 1. Alors, peut-être avant de commencer ma lecture, je vais vous présenter les personnages principaux. On va parler d'Élie, qui est un prophète qui sert Dieu. Achab, qui est le roi sur Israël, et Jézabel, sa femme, la reine. Commençons notre lecture. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils ajoutent cela si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël, pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Sapat, d'Abed-Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Élie, ça va pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va pas bien. Il s'est enfui, caché dans le désert. Et il s'y cache tout seul. Il cherche à s'isoler. Il a laissé son serviteur au passage. Il en est à demander la mort. Élie, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a fallu pour le mettre dans un état pareil? Nous l'avons lu, la reine veut sa mort, et pas qu'un peu. Elle jure devant les dieux, on l'a lu au verset 2, que les dieux fassent ceci et qu'ils ajoutent cela, si demain à cette heure je ne t'ai pas tué. En français d'aujourd'hui, on dirait que les dieux me traitent de toute leur rigueur, avec la plus grande sévérité, ou comme le traduit la Bible en français courant, que les dieux m'affligent la plus terrible des punitions. Elle ne plaisante pas. Élie, ça ne va pas. Est-ce que c'est seulement la reine qui fait ça? Enfin, je veux dire, il peut s'enfuir, se cacher. C'est un pays désertique. Il peut tenter sa chance et s'enfuir. C'est d'autant plus étonnant qu'il soit dans cet état que Élie, c'est quelqu'un. Si on lit les chapitres avant, on voit que c'est quelqu'un qui en impose. On l'a lu dans notre chapitre, il est prêt à marcher 40 jours et 40 nuits, comme ça. Mais avant, dans les chapitres précédents, on l'a vu capable seul de reconstruire un autel pour Dieu, capable seul de découper un taureau pour préparer un sacrifice. On le voit battre à la course le char du roi. C'est un physique qui en impose. Et pas seulement une bête physique, c'est aussi quelqu'un qui en impose par sa présence. Il envoie balader le roi quand celui l'accuse. Tout le peuple devant lui, il les rabroue avec vigueur. Non, Élie, c'est quelqu'un, quand on le voit, d'après les récits bibliques, c'est pas quelqu'un qu'on prend à la légère. C'est quelqu'un qui a de la stature. Mais surtout, Élie, c'est un prophète particulier. Un prophète avec un grand ministère. Et on le lit dans le chapitre, quelqu'un qui vit dans la volonté de Dieu. C'est vraiment surprenant de lire les chapitres 17 et 18. Il annonce des choses et elles se passent. Il y a beaucoup de prophètes, Dieu leur parle, va dire ça au peuple, ils répètent ce que Dieu a dit et ça se passe. Élie, il va dire au peuple avant même que Dieu lui dise et ça se passe. Il annonce, il n'y aura pas de pluie. Pendant plus de 2 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et il annonce même que c'est le jour où lui le dira qu'il recommencera à pleuvoir. Et Dieu s'inscrit dans ce plan. Dieu fait comme Élie a dit. Élie annonce des choses et elles se réalisent avec Dieu. En vérité, Élie connaît la volonté de Dieu. Et il inscrit son action, son ministère, dans la volonté de Dieu. et Dieu rend fructueuse l'action qu'il fait en son nom. Dieu l'exauce. Alors, qu'est-ce qui a fait Élie pour être dans cet état-là? Juste avant sa fuite, il a réussi un tour de force. Le peuple ne suivait plus le vrai Dieu. Le peuple suivait une idole régionale, un dieu régional appelé Baal et qui avait été importé par la reine Jézabel. Et c'est pour les faire réfléchir que Dieu a annoncé que la pluie cesserait et qu'elle a cessé. La troisième année, quand ils sont bien usés, Élie propose un défi. Lui contre les prêtres de Baal. Ils vont offrir un sacrifice. Dans les mêmes conditions, deux autels, deux taureaux, avec une contrainte, pas le droit d'allumer le feu. C'est le Dieu que l'on sert qui devra lui-même allumer le feu. Alors, c'est les prêtres de Baal qui commencent, qui découpent le taureau, qui gesticulent et rien ne se passe. Mais quand Élie fait la même chose, prépare le sacrifice, le met sur l'autel, le feu descend du ciel et brûle tout. C'est un succès. Tout le monde voit que Baal ne peut rien faire et que Dieu, l'Éternel, le Dieu qu'Élie sert, le Dieu du peuple d'Israël, est le vrai Dieu. La pluie peut revenir. C'est un succès. Seulement, ça ne se passe pas comme prévu. Élie pensait qu'il avait fini le boulot. Il pensait que ça y est, il avait pu démontrer que Dieu était le seul vrai Dieu. Mais non, ça ne va pas. La reine Jézabel est toujours là. Elle en veut toujours contre lui. Et pire encore, elle ne reconnaît toujours pas Dieu. Finalement, tout ce travail, la sécheresse, le défi des prophètes, tout ça, ça ne servit à rien. Celle par qui l'éloignement de Dieu est arrivé est encore là. Tout peut recommencer. Tout ce qu'a fait Élie n'a servi à rien. Et je crois que Élie est déçu de Dieu. De son côté, il a tout fait. Franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Élie a dépensé toute son énergie pour instaurer un réveil et Dieu n'a pas assuré. Il a tout misé sur Dieu. Aujourd'hui, il est dans une très grande détresse. Élie, ça ne va pas. Mais Dieu s'occupe de lui. Et c'est le récit que nous avons lu. Dieu lui donne ce dont il a besoin. Il lui donne de la nourriture. Il est vidé, il n'a plus de force. Dieu s'occupe d'abord de ses besoins physiques. Mais Élie n'a pas seulement besoin de ça, il a aussi besoin d'écoute. Et Dieu écoute Élie. Il l'écoute se plaindre et il accueille sa plainte. Je ne parle pas hébreu, mais le commentaire que j'ai lu m'a fait remarquer quelque chose que je trouve très beau. Au verset 4, Élie, quand il se plaint à Dieu, dit « cela suffit ». Et le mot qui est utilisé, c'est un mot hébreu « rab », c'est trop. Plus tard, au verset 7, quand le messager, l'ange que Dieu envoie pour dire à Élie de manger, quand il vient la seconde fois, il lui dit « lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi ». C'est le même mot qui est utilisé, « rab ». C'est comme si Élie disait à Dieu « c'est Rab » et Dieu lui répond « oui, c'est Rab ». Ensuite, Dieu va prendre soin de ses besoins plus profonds. Il l'emmène dans le désert pour lui donner ce dont il a vraiment besoin, ce qui va vraiment le reconstruire. Ce n'est pas tout de suite que ça se passe. Il y a d'abord un temps d'attente, un temps difficile où il faut traverser le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Mais il l'emmène jusqu'à la grotte. Pas jusqu'à une grotte, mais jusqu'à la grotte. Cette grotte, c'est celle où Moïse, déjà, avait rencontré Dieu sur le mont Horeb. Et dans cette grotte, il lui pose une question étrange. Que fais-tu ici, Élie ? Que fais-tu ici ? Tous les deux, ils savent très bien ce qu'il vient faire là. Ils en ont déjà parlé. Élie lui a déjà dit « ça suffit, c'en est trop ». Et c'est Dieu qui a mis en chemin pour venir là. Cette question, je crois que Dieu ne la lui pose pas pour avoir une réponse. Dieu la pose pour qu'il se la pose, pour que lui s'interroge lui-même. Qu'est-ce que je fais ici ? Où est-ce que j'en suis ? Dieu l'invite à s'examiner lui-même, à s'interroger, à regarder au fond de lui, là où il en est, dans quel état il est. Et là, Élie est capable de formuler sa réponse. Il déballe tout. « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Les circonstances sont terribles. Il a tenu par sa fidélité. Il n'est pas récompensé aujourd'hui. L'épreuve est trop grande. C'est trop. Voilà où il en est. Et encore une fois, Dieu l'écoute. Il accueille toute sa détresse devenue trop pour lui. Et après ça, après ce chemin intérieur que fait Élie, Dieu se révèle à lui. Il permet à Élie de le voir. Et ça, c'est une chose rare. Peu nombreux sont les serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont eu droit à ce privilège. Et quand Dieu se révèle, eh bien, il est différent de ce que Élie attend, de ce que Élie pensait. Élie a dit qu'il sert le Dieu des armées, un Dieu qui en jette, un Dieu d'action, un Dieu qui fait des miracles. Voilà le Dieu que sert Élie. Et quand il voit Dieu, il s'attend à un truc qui fait du bruit. Et dans sa révélation, il y a des trucs qui font du bruit. Il y a un vent à fendre les rochers, il y a un tremblement de terre, il y a un feu. Mais c'est dans le calme, avec une voix ténue, un son doux, que Dieu se révèle à Élie. Il se révèle différent de ce qu'il attend. Au fond de sa détresse, Dieu montre à Élie qu'il ne le connaît pas si bien que ça. Oui, il est le Dieu des armées, celui qu'il connaît, celui qui agit de façon spectaculaire, mais il est encore plus riche que cela. Difficile pour nous de tirer des conclusions sur qui est Dieu à partir de cette rencontre. Élie seul sait ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Mais il l'a rencontré d'une manière particulière, d'une manière nouvelle. Et après cette rencontre, Dieu réoriente Élie. Il n'est plus seul à agir. Élie doit aller préparer des rois, doit préparer son successeur pour poursuivre le travail qu'il a commencé. Il n'est pas seul à porter la tâche dont il est chargé. Et au passage, d'une façon très douce, Dieu le détrompe. Non, il n'est pas le seul à lui rester fidèle. 7000 autres personnes sont également restées fidèles. Il l'invite à lever les yeux. Non, il n'est pas seul au monde. D'autres sont là. D'autres peuvent le comprendre. Il l'invite à redécouvrir qu'il fait partie de la communauté du peuple de Dieu. Il peut se remettre en route. On ne sait pas bien dans la suite du récit comment Élie est transformé. On le voit ensuite avec moins de détails. Il reprend son ministère. Mais le récit que nous avons lu aujourd'hui nous apprend que il a connu une crise existentielle et que dans cette crise, Dieu a pris soin de lui. Élie, ça va pas. Et nous? Comment ça va? Si Élie est passé par une crise, ne le pouvons-nous pas, nous aussi? Je crois que si. Si, nous pouvons nous aussi passer par des crises. Le Seigneur ne nous promet pas une vie tranquille qui va de succès en succès, un long fleuve tranquille. Les crises existentielles ne sont pas exclues. Et Élie n'est pas le seul exemple dans la Bible de personnes qui ont traversé une crise. Mais Dieu nous promet d'être avec nous. Il était là avec Élie. Et Jésus a réitéré cette promesse. Je serai avec vous moi-même jusqu'à la fin du monde. Il nous promet d'être là avec nous, y compris dans les moments où nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Pendant cette période de congé, j'ai lu un petit livre écrit par Linda Hoyer et Louis Schweitzer qui est très riche et qui parle des crises de la vie spirituelle. Pour les auteurs, la vie chrétienne est comme un chemin et elle est faite de différentes phases. Notre vie spirituelle commence par une rencontre avec le Seigneur, un émerveillement. On ressent qu'il nous conduit, qu'il nous protège, qu'il répond à nos prières. On se sent aimé par Dieu, on se sent aimé par les chrétiens, par ses frères et sœurs. C'est un moment formidable. Ensuite vient une phase d'apprentissage. Nous approfondissons notre connaissance du Seigneur. Nous apprenons qui il est, ce qu'il attend de nous, comment vivre notre vie avec lui. C'est un temps où nous recherchons des réponses claires, des certitudes pour ancrer notre foi. Nous découvrons nos dons aussi, en vue de les mettre en pratique, dans un service. Et c'est justement cela, la phase suivante. Une phase de service. Conscient des capacités que Dieu nous a données, de l'appel à le servir, eh bien, nous nous mettons au travail, dans l'Église. Nous avons l'impression d'être à notre place et d'accomplir notre vocation. Mais cette phase n'est pas forcément toute rose. On peut aussi y rencontrer une certaine lassitude. On peut ressentir des doutes face à notre activité. Nous demander si ça a un sens, si ce n'est pas de l'activisme. Et surtout, il peut arriver qu'on rencontre un mur. Un jour où on est face à un obstacle et ça ne marche plus. C'est un coup d'arrêt. Comme Élie, on n'y arrive plus. C'est une phase de crise existentielle. Alors que jusqu'ici, on était tourné vers l'extérieur, vers l'apprentissage, vers le service, vers le don, vers les autres. il est temps de se tourner vers l'intérieur et de prendre le temps de répondre à ces questions. Trouver un sens, non plus auprès des autres, mais trouver un sens auprès de Dieu. C'est une phase de perte et de deuil, où on perd parfois certaines de nos convictions religieuses, de nos assurances. Nous devons apprendre à vivre avec toutes ces questions, sans réponse. Nous devons réapprendre que Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre et qu'il reste un mystère. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il s'était forgé une conception de Dieu solide. Il était à fond dans le service et avec un grand succès. Sa conception a été juste, son ministère était béni. Mais il a heurté un mur. À un moment où il pensait connaître Dieu, comprendre Dieu, eh bien ça ne marchait plus. Il a dû s'arrêter, rechercher en Dieu, avec Dieu, pour pouvoir repartir. Pour pouvoir repartir, parce que après cette phase de crise, il y a une autre phase. Une phase de fécondité. Une phase où nous pouvons à nouveau nous tourner vers l'extérieur, où nous sommes changés. Changés parce que nous avons désormais une vision plus juste de qui est Dieu. Une vision plus juste de qui nous sommes nous-mêmes. Nous avons pris conscience que Dieu travaille à travers nos faiblesses. Et désormais, nous nous laissons conduire par celui que nous connaissons mieux. Ces phases ne sont pas successives comme les marches d'un escalier à gravir. Je suis au niveau 1, je passe au niveau 2, niveau 3, niveau 5, je suis arrivé. Ces phases peuvent être cycliques. On peut reprendre, on peut traverser plusieurs crises. Après une crise, on peut repartir dans une phase d'apprentissage. Que sais-je ? Ce serait une mauvaise façon de les comprendre que de penser qu'elles sont successives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie chrétienne n'est pas toujours égale. Un jour, je me convertis et hop, le lendemain, je suis le chrétien que je resterai toute ma vie. Elle n'est pas non plus une progression rectiligne, progression en progression, de gloire en gloire jusqu'à ce que je sois arrivé. Elle n'est pas non plus le même parcours pour tout le monde. Tout le monde ne connaît pas le même parcours. Tout le monde ne partage pas les mêmes difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie chrétienne est un chemin, un mouvement, un parcours où le Seigneur nous emmène. Où il nous emmène là où il a envie de nous emmener. Et non pas où on pensait aller quand on a embarqué avec lui. Mais plus encore, ce qu'il faut retenir, c'est que les crises existentielles existent, et pour le croyant aussi. Ce se détend où on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait, où on doute, où on est face à un mur. Elles peuvent être douloureuses, profondes, longues, ou elles peuvent être courtes, discrètes, tranquilles. Ça dépend pour qui. Mais elles font partie de la vie chrétienne. Elles ne sont pas des fautes de parcours, mais elles sont des moments où Dieu nous accompagne et où Dieu nous fait grandir et où Dieu nous transforme. Pour aller vers une meilleure compréhension de qui il est, de qui nous sommes. De l'autre côté de la crise, il y a la fécondité avec le Seigneur, où nous pouvons de nouveau nous tourner vers les autres, et avec plus de force et plus de richesse qu'avant. Dieu nous accompagne dans les crises. Il est là à nos côtés. Et de façon encore plus pertinente de ce que nous savons, que Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ qui a été homme comme nous en tout point. Jésus-Christ qui lui aussi a connu la crise, qui a dû passer par des moments noirs. Il sait ce que nous vivons et c'est lui qui a promis d'être avec nous, de nous accompagner. Et c'est lui, le bon berger, qui nous conduit lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Que faire ? Que faire dans ce cas ? Eh bien déjà, accepter. Accepter de nous remettre en question lorsque Dieu nous place dans une situation pareille, lorsqu'il la permet. Accepter de remettre en question les compréhensions que nous avions, les comportements dans lesquels nous étions si forts et qui nous servaient si bien. Accepter aussi la présence des autres. Comme Élie, nous avons besoin de rouvrir les yeux quand nous pensons être seuls au monde et voir que le Seigneur à placer à côté de nous d'autres personnes qui sont aussi fidèles. Tous ne nous comprennent pas, mais Dieu en a placé à nos côtés qui peuvent nous accompagner. Et surtout, dans ces cas-là, tournons-nous vers Dieu. Laissons-le parler. Laissons-le se révéler et nous montrer qui il est vraiment et nous emmener plus loin. Car ce qu'il a prévu, c'est que nous allions au-delà de la crise. Et ce qu'il a prévu après pour nous est quelque chose de bon. En cette période où nous nous souhaitons une bonne année, plutôt que de vous souhaiter une année sans problème, sans crise, je vous souhaite de pouvoir toujours trouver la présence de Dieu à vos côtés. Quelles que soient les circonstances, je vous souhaite de pouvoir vous ouvrir à ce qu'il a pour vous, pour aller là où il veut vous amener, toujours plus loin, avec lui. Amen.